Merci Jean-Claude. On va peut-être prendre une série de questions qui pourraient porter sur l'exposé juste maintenant, pour ne pas faire des allers-retours après un peu plus compliqués. Est-ce qu'il y a des points de clarification ou des questions que vous aimeriez poser à Jean-Claude suite à ce qu'il vient de présenter? Oui, il y en avait une.
My name is Taras Shevchenko. I'm from Ukraine. I represent Media Law Institute. This is NGO think tank. My question is about following. You mentioned that there is very huge amount of recommendations that's there very unclear, like 35%. How did you deal with them on the level of deciding if they were implemented or not? Because if the recommendation is unclear, it's quite hard to understand whether it partially implemented or not implemented, or it was implemented. Is it easier actually to have positive grade while you grading implementation of this such unclear recommendation, or harder? Thanks.
Thank you very much for the nice presentation. My name is Samson Salamat, and I come from Lahore, Pakistan, and work with the Center for Human Rights Education. Well, looking at the figures that you presented about the implementation of UPR recommendations, I've observed that Asia has been behind other continents. And just I'm very interested to know if you have looked at the reasons why Asia has been behind. Is it because the governments are not interested, or the civil society has not been able to come up effectively? Thank you.
Yeah, my name is Wang Yanghai. I'm from China. We work on health and human rights issues. We submitted a report for the 2009 review on China. So one issue we raised is about in China, many hemophilic people, you know, infected by AIDS and hepatitis. So they worked for compensation, and the government, you know, rejected, and the court closed, and so the hemophilic people, it's difficult for them to sue the pharmaceutical companies or the government. So I don't know how Chinese government responded, but later on, so immediately after the review, the court in China opened a case and allowed hemophilic people to take legal action to sue the pharmaceutical companies or government. And after, I think the hemophilic group worked very hard and fought it with government, with police in Beijing. So by the end of 2009, the government eventually agreed to compensate for them. Okay, so it's a situation that in China, so it's a dictator, you know, it's not a democratic government. So they, you know, their response will be like they would not encourage that people to criticize them and feel like people win and they lose. Okay, so we inside China, we also see many cases when we publicly raise some issues, it's difficult for them to admit something or recognize something, and probably they'll give you trouble. But after the confrontation, privately they might do something. so they do not want to send out a message that people submit a report to the UN, then give them pressure, then people can succeed or people can win and the government lose. So that's my understanding. Yeah, thank you.
Merci pour les questions très pratiques. Parce que quand on parle de PU, il faut parler de manière pratique. Comment est-ce qu'on décide de la mise en œuvre sur les recommandations vagues? Tout d'abord, il faut savoir que, encore une fois, il est facile de mesurer est-ce qu'une recommandation liée à la ratification, elle est mise en œuvre ou pas. Suivant le commentaire que l'on reçoit, c'est oui ou non, avec quelques mots de commentaire parfois. Par contre, sur améliorer la condition des enfants, qui est une recommandation extraordinairement vague, je dirais que c'est on décide qu'elle est partiellement mise en œuvre lorsque déjà l'ONG qui est derrière et qui a commenté la recommandation nous le dit clairement. Parfois les ONG nous disent elles-mêmes, je considère que c'est partiellement, complètement ou pas du tout mis en œuvre. Donc ça c'est déjà une indication qui est très forte pour nous, mais qu'on ne retient pas forcément. Donc ça, c'est déjà un indice, mais aussi on va regarder, est-ce qu'il y a une action qui a été entreprise par rapport à cette recommandation ? Si l'État a commencé à mettre en place un mécanisme permettant de sauvegarder de meilleure façon les enfants, ben on part du principe que l'État a commencé à faire quelque chose. La question, elle se poserait plutôt avec le complètement mis en œuvre. Comment est-ce qu'on peut considérer qu'une telle recommandation est complètement mise en œuvre ? Je dirais qu'il n'y a que les États, des fois, qui dans leurs commentaires, nous disent « on considère cette recommandation complètement mise en œuvre ». C'est pour ça qu'on retrouve beaucoup de recommandations qui sont plutôt partiellement mises en œuvre que complètement mises en œuvre. Mais même le partiellement mis en œuvre, c'est un signe positif. Ces 40%, il faut garder à l'esprit, ces 40% d'actions entreprises par les États, il faut garder à l'esprit que ça veut dire que pour 40% des recommandations à mi-parcours, l'État a été sensible à cette recommandation. Plus que savoir, c'est pas vraiment un travail académique. Il faut voir toute votre intervention autour de l'UPR, il faut la voir comme un prétexte. L'UPR vous offre des prétextes pour faire mille et une choses. Ce programme, c'est également un prétexte pour vous, défenseurs de droits de l'homme, de discuter avec des États, avec votre gouvernement, avec des journalistes, avec d'autres ONG. Il faut voir l'EPU dans tous les cas de figure comme un prétexte pour vous, pour faire votre travail. Plus que c'est pas un travail académique, hein, ce qu'on a publié. Donc je comprends tout à fait cette question et puis elle doit être posée, mais on va pas aller plus finement dans l'analyse de la mise en œuvre. On a décidé d'avoir ces trois niveaux, le partiellement mis en œuvre étant celui le plus courant, on va dire, même s'il y a 60% des recommandations qui sont pas mises en œuvre. Donc voilà, pour répondre à cette question. Et puis pour la deuxième, pourquoi l'Asie est derrière ? Ouf, ça c'est une vaste question, surtout quand on parle d'Asie, il n'y a pas une Asie. Il y a des régions qui sont tellement différentes dans l'Asie, qui est tellement un continent tellement énorme avec une culture différente. Je pense qu'on pourrait parler de certains pays et il y a je ne sais pas si je peux appeler ça des nouvelles démocraties, mais en tout cas, il y a certains pays qui sont en train d'essayer de tenter autre chose, mais qui n'ont pas la culture de communiquer sur ce qu'ils font, qui n'ont pas la culture de parler avec leurs compatriotes. Je pense qu'il y a un problème. Il y a un problème. Il y a une raison culturelle par la force des choses, surtout si on parle de l'Asie. De l'Asie de l'Est, il y a une raison culturelle qui fait qu'on ne parle pas sur le devant de la scène des problèmes qui sont à l'intérieur. Mais en tout cas, ça ne doit pas limiter le travail des défenseurs des droits de l'homme. C'est pas encourageant, on va dire, pour l'EPU de voir que pour l'Asie, ça marche moins bien. Ça veut dire qu'il faut que vous travailliez plus fort en Asie. Il faut que vous soyez meilleur que tous les autres. Mais j'ai pas de réponse comme ça à l'emporter sur pourquoi l'Asie, c'est une région beaucoup trop complexe pour que je puisse avoir une seule réponse sur une région aussi grande.